Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, deux valises contenant une somme de 1,9 million de dollars ont été saisies ce week-end à l'aéroport international d'Ndjili. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a ordonné la mise sous scellé immédiate de fonds et leur consignation à la Banque centrale du Congo. Les populations riveraines du site universitaire de Kinshasa se réjouissent du début des travaux de lutte anti-érosive dans leur quartier. Tout en remerciant le gouvernement, ces derniers souhaitent que ces travaux aillent jusqu'au bout afin de préserver leurs parcelles menacées par les têtes d'érosion qui progressaient à grande vitesse. En Ituri, les attaques attribuées aux rebelles des ADF affiliés à l'organisation terroriste État islamique continue de frapper la population. Elle suscite également des polémiques et alimente la stigmatisation des musulmans. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie, célébrée chaque 15 mars, nous recevons Cheikh Choukrani Bouaoufou, qui est le responsable de la communauté islamique à Ituri. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Une somme importante de 1,9 million de dollars américains a été saisie ce week-end à l'aéroport international d'Ndjili. L'argent était réparti dans deux valises interceptées au sein de l'aéroport. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a ordonné la mise sous scellé immédiate des fonds et leur consignation à la Banque centrale du Congo. D'autres détails avec vous, Alain Irungmouchi.
Selon le ministre de la Justice, le montant total pourrait atteindre 3 534 000 dollars américains, d'après une source encore non confirmée. Guillaume Ngefa indique avoir donné injonction au procureur général près la Cour de cassation de veiller à la saisie régulière et intégrale des fonds, de les placer sous scellé en présence des officiers de police judiciaire compétents et d'établir sans délai un procès verbal détaillé et contradictoire retraçant les circonstances de l'interception ainsi que l'identification complète de la personne concernée et de tous les agents impliqués. Conformément à l'article 25 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les fonds saisis doivent être consignés à la Banque centrale du Congo et les procès-verbaux transmis immédiatement à la cellule nationale des renseignements financiers, précise Guillaume Ngefa. Le ministre de la Justice enjoint également le procureur général près la Cour de cassation de garantir la saisine du parquet compétent, l'ouverture d'une procédure judiciaire et la conduite d'une enquête approfondie visant à déterminer l'origine des fonds, à qualifier juridiquement les faits et à identifier toutes les responsabilités pénales éventuelles.
Le gouvernement congolais a dépensé près de 19 milliards de dollars en 5 ans, de 2001 à 2025, pour rémunérer les agents publics. Ces dépenses ont été marquées par des dépassements budgétaires répétés. Alors que les autorités annoncent un nouvel audit du fichier de la paix, une analyse citoyenne alerte sur la gestion des rémunérations en RDC. Publiée en mars par le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL, ces baromètres mettent en évidence plusieurs dérives persistantes, fraude, insuffisance de contrôle et non-respect des règles budgétaires. Pourquoi la masse salariale est-elle aujourd'hui considérée comme un risque majeur pour les finances publiques? Élément de réponse avec Élisée Chikotachi-Vueta qui a lu pour nous ce rapport.
Selon le CREFDEL, les dépenses des rémunérations ont régulièrement dépassé les plafonds fixés par les lois de finances en violation des règles de gestion budgétaire. Un montant total de 18,9 milliards de dollars a été payé au cours de la période évaluée. Avec ces dépenses, le poids des salaires dans les recettes de l'État reste très élevé. Sur 5 ans, il représente en moyenne plus de 43% des recettes internes, bien au-delà du seuil des 35% fixé par le gouvernement, notamment dans le cadre de ses engagements engagements avec le Fonds monétaire international. Le rapport met également en lumière des graves dysfonctionnements dans le fichier de paie. Plusieurs audits ont révélé l'existence d'un agent fictif, des doublons ou encore des matricules irréguliers entraînant des pertes estimées à des centaines de millions de dollars pour les trésors publics. Malgré les réformes engagées, notamment la bancarisation des salaires et la mise en place d'un système informatisé, ces irrégularités persistent. Pour les CREFDEL, la masse salariale constitue désormais une dépense à haut risque en raison de recrutements mal maîtrisés, des manques de transparence et de l'absence de suivi des recommandations issues des audits précédents. Face à cette situation, l'organisation appelle le gouvernement à appliquer strictement les réformes annoncées, assainir le fichier de paie, respecter les plafonds budgétaires et renforcer les mécanismes de contrôle afin d'éviter la répétition de mêmes dérives.
Je le disais tout à l'heure en titre, les populations riveraines du site universitaire de Kinshasa se réjouissent du début des travaux de lutte anti-érosive dans leur quartier. Elles ont exprimé leur satisfaction ce dimanche dans un entretien accordé à Radio Okapi. L'un des habitants remercie le gouvernement via les ministres des infrastructures et travaux publics et souhaite que ces travaux aillent jusqu'au bout afin de préserver leurs parcelles menacées par les têtes d'érosion qui progressaient à chaque pluie. Blaise Nongala Mayanda a été sur place.
L'alerte a été lancée par les populations des quartiers environnants du site universitaire de Kinshasa, mais également par la ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces habitants appelaient le gouvernement à intervenir face à l'avancée rapide des ravins qui, à chaque pluie, engloutissaient des parcelles entières. C'est à la suite de ces cris de détresse que le ministre des Infrastructures, John Banza, a déployé des engins pour la réhabilitation de la route longue de 4 km menant vers les plateaux des professeurs. Grâce au reprofilage et au revêtement en cours, un notable du quartier s'est réjoui de constater que l'érosion est en partie maîtrisée et que la route est de nouveau ouverte à la circulation.
On ne s'imaginait, on n'avait jamais pensé que cette communauté pouvait bénéficier de la République autant. Nous remercions les présidents de la République. Nous remercions les ministres et les cantonniers de la République.
Les habitants de ces quartiers attendent également du gouvernement qu'il dote cette partie de la capitale d'une voirie moderne afin d'offrir une solution durable au problème d'érosion. Dans le cadre de ces travaux d'urgence exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux, un mur de clôture a par ailleurs été érigé pour protéger et sécuriser les sites de l'université de Kinshasa.
Dans le même registre, la dégradation du tronçon routier Tchomba-Luama dans la province du Maniema continue de poser problème. Cette fois, le comité de gestion de l'université de Kindu a décidé de prendre les choses en main. Ce week-end, il a lancé des travaux de remblayage des nids de poules afin de réduire les risques d'accident dont plusieurs ont déjà touché des étudiants sur cette route d'intérêt communautaire jugée très détériorée. Les travaux ont débuté à l'espace Beauvent 1 sous la supervision du secrétaire général à la recherche et recteur intérimaire, le professeur Casimir Ngumbi Kitete. Celui-ci souligne que l'état de la route affecte négativement le bon fonctionnement de la 4e université du Congo. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Boat au pied, pêche et ou à la mer, le membre du comité de gestion ont chacun apporté leur contribution pour améliorer ne serait-ce qu'un peu la circulation sur ces tronçons. Par ces gestes, le recteur intérimaire lance un appel aux autorités compétentes afin d'appuyer une réhabilitation durable. Professeur Casimir Ngumbi Kitete.
Nous sommes en train de réhabiliter notre route. Vous savez que j'ai ramassé plus d'une dizaine d'étudiants qui tombent dans l'eau avec leur syllabus. Plusieurs mamans sont tombées, alors nous avons dit, on fasse quand même quelque chose pour aider et nous-mêmes d'abord nous aider nous-mêmes parce que nous passons avec nos véhicules ici, aider toute la population à faire un travail qui peut nous aider ne fût-ce que de considérer cette route fait praticable quoi. Cet acte est une main tendue, c'est une formulation de nos inputs pour qu'ils regardent ce côté. Le gouvernement nous a conçu déjà une université, c'est vrai, mais on ne sait pas accéder facilement. Nos enfants pour qui nous préparons l'avenir ont besoin d'une route praticable pour qu'ils puissent étudier dans les bonnes conditions. Tomber dans l'eau chaque jour avec les syllabus mouillés, c'est pas quelque chose de très intéressant.
Signalons que, aux côtés du comité de gestion de l'université de Kindu, les militaires apportent également leur soutien. Ces tronçons desserrent en effet les camps militaires de Luama, l'hôpital militaire et plusieurs écoles. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit au nord Kivu. Le pont Bataou, jeté sur la rivière du même nom à Mutwanga, à 40 km au nord-est de la ville de Beni, menace de s'effondrer. s'effondrer. En cause, l'affaissement de l'un des murs qui les soutiennent. Ce pont relie plusieurs entités agricoles, notamment Mwenda, Lume, Bulongo ou encore Nzenga, qui donnent accès au centre de consommation des produits agricoles produits dans la région. Le chef du secteur de Rwenzori, qui confirme cette information, demande l'intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires pour éviter le pire. Japhet Mapati est au téléphone de Marc Marofimbo.
Et effectivement, je confirme les risques d'effondrement du pont Butaou au niveau du centre commercial de Mutuanga. C'est la semaine passée que nous avons été alertés, nous avons constaté l'effondrement d'un des murs qui soutiennent les ponts, et ce qui met les ponts dans une situation difficile. Et à notre niveau, nous ne faisons que lancer l'appel à tous les partenaires de notre gouvernement, et je suis à notre hiérarchie de nous venir en aide pour pouvoir réhabiliter ces ponts, parce que ça nécessite un coût assez élevé que le secteur ne pourra pas vraiment prendre à charge seul. Pour l'instant, nous essayons un peu aussi de limiter la circulation sur le pont pour prévenir un effondrement rapide, quoi, ne puisse être précipité.
Dans la province de Lomami, un mort par foudre, plusieurs toitures de maisons, des églises et des écoles emportées et les arbres déracinés, c'est le bilan provisoire d'une pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu aux heures d'après-midi ce dimanche dans la ville ferroviaire de Mweneditu à plus ou moins 132 km de Mbujimayi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon les premières informations recueillies, plusieurs quartiers ont été durement touchés alors que de nombreux habitants participaient encore au culte dominical. Des maisons se sont écroulées, des clôtures ont cédé et les toitures de plusieurs églises et écoles ont été arrachées. Parmi les infrastructures endommagées figure la paroisse Saint-Pierre et Paul dans le quartier Moussaoula, où une partie importante de la toiture a été emportée par le vent. Le drame s'est aggravé dans le quartier Scellé, toujours dans la commune de Mweneditu, où une femme d'une cinquantaine d'années a été foudroyée en pleine offrande dans une église de réveil. Elle est décédée sur place. Plusieurs autres fidèles, dont le pasteur, ont été blessés et conduits d'urgence dans des structures sanitaires pour des soins appropriés. La commune de Bondoï n'a pas été épargnée. Son bourgmestre Richard Kazadi fait état de l'écroulement d'au moins 6 maisons et d'un dépôt de marchandises. Ces dégâts pourraient perturber la reprise des activités scolaires dans certains établissements touchés. Face à l'ampleur des dommages, la société civile appelle les autorités à intervenir rapidement pour soutenir les ménages sinistrés et les infrastructures éducatives affectées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kananga, au Kasaï central, des tas d'immondices jonchent les sols dans les marchés Kamaï. Selon des riverains, ces déchets sont jetés par des vendeurs et commerçants. Une situation qui complique la circulation sur ces tronçons et suscite l'inquiétude des habitants. Ils appellent les autorités locales à intervenir pour évacuer ces immondices. Le point avec André Katinde Ngalamoulomé.
Des immondices sont visibles le long de l'avenue entre le marché Kamaï et la station de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kananga. Ici, piétons et conducteurs d'engins automobiles éprouvent des difficultés à circuler normalement. La situation empire à chaque tombée de la pluie. Des riverains du marché accusent certains commerçants d'être à la base de cette situation. Ils dénoncent des dépôts anarchiques des déchets qui, selon eux, dégradent l'environnement et les exposent à des risques sanitaires.
Devant les marchés de Kamaï, il y a tellement des immondices. Il est difficile de passer même à pied.
Du côté de l'administration du marché Kamaï, les préposés adjoints rejettent en partie ces accusations. Il affirme que les déchets évacués du marché sont habituellement déversés dans un ravin prévu à cet effet. Selon lui, c'est la population riveraine qui vient jeter ces déchets nuitamment. Il précise toutefois qu'une correspondance officielle est déjà adressée aux autorités urbaines pour solliciter un tracteur en vue de faciliter le nettoyage de cet endroit. C'est donc une affaire à suivre. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les relations restent tendues entre la population civile et les forces de l'ordre dans le territoire de Mwenga. La société civile accuse certains éléments des FARDC et des groupes Wazalendo d'être impliqués dans plusieurs abus, notamment des actes de torture, des meurtres et des pillages. L'administrateur du territoire de Mwenga affirme avoir été saisi de la situation et annonce la tenue prochaine d'une rencontre avec l'autorité militaire locale. Reportage.
La dénonciation formulée par la société civile du territoire de Mwenga est sans ambages. Lungele Itebo, président de la société civile du territoire, revient sur les abus imputés aux forces de l'ordre FARDC et VDP.
Suite aux tracasseries observées à la partie sous contrôle du gouvernement central, les bureaux de la société civile et forces vives et territoire de Mwenga lancent un appel citoyen à la protection des civils et leurs biens à travers une dénonciation populaire pour lutter contre le phénomène Longola Schema na téléphone na yo.
L'administrateur du territoire compatit avec ses administrés, Ishikiti Lomao.
Je venais de recevoir la lettre de la société civile qui parle de cette situation de certains militaires indisciplinés. Et directement, nous avons convoqué une réunion avec les autorités militaires pour essayer un peu de juguler cette situation.
Le commandant FARDC Axe Mwenga confirme que le brebis galaise se trouve au sein de ses troupes et reconnaît en avoir sanctionné 3, dont un volontaire pour la défense de la patrie, transféré auprès de l'état-major à Kisangani. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Américains et les Israéliens ont bombardé le complexe nucléaire de Natanz en Iran samedi 21 mars. En riposte, Téhéran a lancé 2 attaques dans le sud d'Israël sur les localités d'Arad et de Dimona. La ville de Dimona abrite un centre stratégique de recherche nucléaire et Israël est considéré comme le seul pays doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, mais entretient l'ambiguïté sur le sujet.
L'invité.
En Ituri, les attaques attribuées aux rebelles des ADF affiliés à l'organisation terroriste État islamique continuent de frapper la population. Elles suscitent également des polémiques et alimentent la stigmatisation des musulmans. Certains habitants établissent en effet des amalgames assimilant la communauté musulmane à ces groupes armés. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, célébrée chaque 15 mars, nous recevons Cheikh Choukrani Biaroufou. Quelle est la position de la communauté islamique locale face à ces violences et quel message adresse-t-elle aux populations pour préserver la cohésion sociale? Le responsable de la communauté islamique en Ituri répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Cheikh Choukrani Biaroufou, bonjour. Le 15 mars dernier, c'était la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Elle a été instaurée par l'ONU pour justement atteindre plusieurs objectifs liés à la protection des droits humains et au vivre ensemble. Mais pour vous-même, quel sens vous de la communauté islamique donnez-vous à cette journée?
C'est une très bonne chose parce que au moins le monde est en train de comprendre ce qui se passe, les attaques à tort des fois à travers.
La province de l'Ituri, Cheikh Choukrani, continue de faire face à des attaques attribuées aux rebelles ADF. Composite-t-il la position de la communauté islamique de l'Ituri face à ces violences qui sont parfois commises au nom de l'islam?
D'abord, dire que ces violences sont commises au nom de l'islam, je ne peux pas accepter autant puisque l'islam est une religion de paix et de tolérance. Et un musulman doit être tolérant. Un musulman n'a jamais été un agresseur. Il se défend quand même. C'est mieux même de faire cette journée-là internationale pour qu'on puisse quand même éclairer l'antenne, qu'on puisse donner des gens des vraies versions de la situation. Un exemple, il y avait cette milice, Lord's Resistance Army, l'armée du Seigneur, comme c'est pas l'essence pour Jésus-Christ, tout ça. Mais ce sont des gens qui s'organisent.
Elle ira
pour leur intérêt. Mais ils mettent Jésus à la tête. Il y a des gens aussi, des musulmans qui peuvent faire ça. Allahu Akbar, c'est Dieu est grand. Ça, c'est l'arabe. C'est une langue. Ça peut être parlé par tout le monde. Il y a même un verset dans l'islam, dans le Coran qui dit, celui qui tue seulement une seule personne, un être, c'est comme s'il tuait l'univers tout entier. Donc, on peut pas tuer quelqu'un comme ça. C'est interdit dans le Coran. Donc, que ce soit chrétien ou musulman, que ce soit un musulman, que tu es chrétien ou chrétien, tu es musulman, nous ne permettons pas ça. L'islam, c'est condamné.
Cheikh Choukrani, justement, dans ce contexte de sécurité, certains peuvent faire un amalgame, vous l'avez dit, entre ces groupes armés et la religion musulmane. Ressentez-vous ce type de perception dans la province de l'Ituri et que leur répondez-vous?
Oui, nous comprenons l'Ituri, mais c'est pas même l'Ituri. Il y a des fois d'autres choses qui se font, qui se passent dans des télés.
Hein, vous voyez que les gens font ça sciemment, donc ils veulent cibler l'islam. Lorsque tu fais des clips comme ça, quelqu'un qui est à tête de haut, anti-terror, tout ça, avec des sultans, tout ça. Donc, tout ça, c'est mettre dans la tête déjà que ces gens sont des gens violents. Il y a des gens derrière ça, des mains noires, qui font ça sciemment pour, en tout cas, salir l'islam. Mais l'islam ne peut pas être sali.
Et l'Ethiopie, comme vous le savez, est une province marquée par la diversité religieuse. Comment renforcer le vivre ensemble entre les différentes confessions religieuses dans ce contexte aussi tendu avec tout ce qui se passe dans la province? La division, la ségrégation, la stigmatisation, comment pensez-vous qu'on peut renforcer ces liens de cohésion sociale? Parce que tous les responsables religieux, le gouvernement, l'État congolais, la province, vous battez pour qu'il y ait cette paix durable dans une Ituri où les sangs malheureusement continuent à couler.
Moi, j'étais parmi les gens qui ont créé la CCRI. CCRI, c'est le Conseil des confessions religieuses de l'Ituri. Là, c'est pour permettre à ce qu'on soit ensemble avec d'autres confessions religieuses. Pour qu'on puisse, en tout cas, arriver à faire cette lutte ensemble. En tout cas, pour ce qui concerne l'insécurité, la tuerie, tout ça, dans notre province. Donc, ensemble avec le pasteur, les chefs, les qui, le quoi, nous sommes ensemble, nous sommes dans cette plateforme et dans le Conseil des confessions religieuses. Nous travaillons ensemble dans ça. C'est pas même, ça fait longtemps qu'on travaille dans ça et on continue à travailler ça. Nous utilisons par exemple les canaux, différents canaux. Pareil pour nous, on a notre radio ici, depuis FM. Peace FM, ça veut dire que c'est une radio de la paix. Donc, nous lançons des messages de paix, de vivre ensemble, de cohésion. Nous faisons aussi parfois de la prêche en public, pour toujours la paix.
Dernière question chez Choukan. Quel message adressez-vous aujourd'hui aux jeunes particulièrement, mais aussi à l'ensemble de la population de l'Ituri, pour renforcer la paix et éviter toute manipulation au nom de la religion?
Moi, je vois les jeunes, vous êtes l'espoir de demain, vous êtes les responsables et les dirigeants de ce pays de demain. Donc, nous pensons qu'il faut rester concentré sur la paix durable dans notre province. Il faut travailler, il faut pas chercher de l'argent facile, parce que c'est avec ça qu'on essaie un peu de recruter les gens dans des sales besoins. Ce n'est pas seulement les ADF ou quoi. En tout cas, dans plein de choses, en tout cas, lorsqu'il s'agit d'insécurité, ce sont les jeunes d'abord qui sont des cibles. Moi, je pense que les jeunes, il faut en tout cas être conscients. On a besoin d'une jeunesse consciente, patriote, qu'il faut qu'ils aiment leur pays, mais qu'ils soient les artisans de la paix.
Chez Choukan Biaroufou, je vous dis merci. Moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était notre invité tchèque Choukani Biaroufou qui s'entretenait avec Jean-Claude Loukidile. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Tchikota-Tchivoueta, supervisée par Alain Hiron-Mouchige et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre compte TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.